sur France Inter.
L'un est metteur en scène de théâtre et aussi écrivain. L'autre est écrivain, professeur et poète. Tous deux sont amis depuis longtemps. Ils ont accepté d'être ensemble ce soir. Georges Lavaudant et Jean-Christophe Bailly sont les invités de L'Heure Bleue. Mais comme chaque soir, on va commencer en musique. Et je vous ai demandé à tous les deux vos choix musicaux. Et on va commencer avec le choix musical de Georges Lavaudant, dit Joe, Stevie Wonder, Superstition. Vous avez dansé sur cette musique, Georges Lavaudant ?
Ah oui, beaucoup, oui.
Des nuits entières ?
Oui, des nuits entières, oui, avec le matin qui se lève. Après, on va se coucher dans un parc, tranquillement, on est réveillé par le soleil. Super, superstition.
Et vous, Jean-Christophe Bailly, c'est votre genre de danser avec des jolies filles ?
Plus du tout maintenant, mais j'ai fait ça
Beaucoup. Oui, j'ai eu même une période, disons, noctambule, mais ça m'a beaucoup amusé, intéressé. Et mais après, j'ai un peu fermé la boutique pour des raisons de travail.
C'est-à-dire, vous êtes enfermé chez vous pour lire des livres
Ce serait très exagéré, mais disons, j'ai vu que si je continuais sur la pente de beaucoup vivre la nuit, je n'aurais pas l'agrément du jour, tout bonnement.
Et pourtant, les dérives nocturnes sont nombreuses dans plusieurs de vos textes.
Ah mais oui. Et quand on vieillit, après, on le fait moins, mais...
Quand on vieillit.
Oui, mais si.
Vous me prenez pour un vieux ?
Non, pas du tout, mais on vieillit même dès qu'on a un jour. Donc, mais quand on vieillit, il y a des choses qu'on fait plus, peut-être parce qu'on en est tout bonnement fatigué là, ou parce qu'on a plus de la surprise, etc. Mais rétrospectivement, je me représente, si j'avais choisi à 18 ans de mener une vie strictement d'études, ou etc. Et non, je regrette pas du tout d'avoir d'être sorti de la route à bien des reprises, quoi.
Pourquoi ? Parce que vous avez découvert la lecture ?
Ah, la lecture, non, ça, je l'ai découvert bien avant. La lecture, de vous lire des livres. Ah non, la lecture des livres, je l'ai découverte bien avant de sortir le soir. Et il n'y avait pas de rivalité, d'ailleurs. C'était comme ça. C'est plutôt par rapport au travail qu'on fait comme écrivain. Il y a un moment aussi, on ne fait plus que s'amuser, sortir. Et il y a un vertige de ça, d'ailleurs. Et j'ai pas eu le goût de faire comme certains amis artistes qui pouvaient le faire pendant des mois, puis se remettre au travail, etc. Il y avait une sorte d'équilibre à trouver.
À partir de quand avez-vous su que vous alliez devenir quelqu'un ?
Quelqu'un. Ben ça, tout le monde est quelqu'un, je crois. Mais si vous voulez être plus précise et dire à partir de quand j'ai décidé que je serais écrivain, c'est très très jeune. J'étais très jeune, c'est vers 16 ans à peu près. Je savais que c'est ça que je voulais faire et je me suis arrangé pour le devenir. Voilà. Mais ça veut dire que j'étais déjà quelqu'un.
Non, mais quelqu'un qui décide de passer sa vie à étudier des textes, à traduire des textes, à publier des textes, à en écrire soi-même, à essayer de comprendre par des mots ce qui arrive dans le corps et dans le cerveau.
Ben, je vous dis, c'est assez jeune. Et en fait, après, c'est difficile de reconstituer parce qu'il y a plein de petits ruisseaux qui finissent par former un flux. Et c'est ce flux qui finit par emporter le barrage d'une vague résistance que j'aurais pu avoir, que je me souviens même pas d'avoir eu. Mais parmi les souvenirs que j'ai racontés, je crois, il y a entre autres, une façon très forte... À la télévision, bizarrement, une interview de... Enfin, c'était même pas l'interview, ils avaient coupé les questions. C'est Giacometti qui parlait pendant une heure. C'était une émission Les Heures Chaudes de Montparnasse. Je crois que c'est la seule, d'ailleurs, de cette série.
De Max Paul Fouché.
Non, je crois que c'était à quelqu'un de beaucoup moins bien qui avait fait ça. Jean-Marie Drault. Voilà. Mais il se trouve que cet entretien, enfin cette libre parole de Giacometti était tellement impressionnante, quoi. Et je me souviens d'avoir presque décidé après l'avoir écouté, oui, il a raison, il faut y aller.
Et pourtant, vous avez publié dans un de vos textes qui s'intitule Tuiles détachées, des souvenirs de l'enfance et de la fin de l'adolescence. Votre père souhaitait que vous puissiez continuer ce qu'il faisait, une petite usine de briques.
C'était pas des briques. Mon père avait une entreprise de carrelage, fabriquait des choses, mais surtout les posait sur les chantiers et à Aubervilliers. Et comme c'est normal pour tout homme qui se fabrique lui-même comme ça, surtout après-guerre, etc. Et il avait le désir tout à fait légitime que l'entreprise continue. Et pour moi, c'était assez angoissant l'idée de me retrouver, patron, même petit patron. Et il en était pas question. Et c'était compliqué parce que j'ai essayé de ruser pour éviter la forme caricaturale d'un conflit avec mon père, qui était d'autant plus compliqué qu'il avait perdu la vue, etc. Ça a fini par s'arranger très bien. Mais je suis pas devenu responsable de cette entreprise.
Et vous, Georges Lavaudant, quand avez-vous su que vous alliez avoir une vocation et qu'un jour vous iriez passer votre vie, jour et nuit, dans les théâtres et dans les coulisses des théâtres ? Ça s'est fait comment?
Bon, je pense aussi que c'est un, pardon, c'est un peu comme Jean-Christophe Bailly, c'est-à-dire, il y a un moment, je crois, vers 15, 16, 17 ans, où on sent que ça va être là, qu'il va falloir faire quelque chose. Alors moi aussi, je venais plutôt d'un milieu populaire, mais très bien. Enfin bon, il n'y avait pas de problème à la maison. Mais il y a quand même un moment où il y a quelque chose qui arrive et qui vous dit, il y a la fenêtre de tir qui arrive et elle est précise, impressionnante, assez compliquée parfois, même pour des raisons purement financières. Des fois, se dire qu'on va se lancer dans ce métier qui n'en est pas un. Et je me souviens qu'il y a eu comme ça, peut-être 6 mois, un an et demi, où j'étais incertain moi-même. Et je voyais par contre les à côté, comme Jean-Christophe voyait, bon, peut-être le carrelage, les catalogues, les chantiers. Moi, je voyais en fait prof de gym ou m'engager dans l'armée, par exemple. Voilà.
Et comme Jean-Christophe Bailly, donc, ça a été la voix de Giacometti. Pour vous, ça a été la vision d'un spectacle en particulier?
Non, ça a été plutôt, il faudra jamais le rappeler assez, ça a été par l'école, ça a été par les profs, ça a été par le lycée, ça a été par les gens qui m'enseignaient le français, mais aussi un professeur, enfin je faisais pas d'allemand, mais par exemple il y avait un professeur d'allemand qui s'occupait d'une petite cellule théâtre et qui m'a donné le goût des textes, qui m'a donné le goût de rencontrer les gens, d'échanger, de comprendre que la littérature, c'était en même temps extrêmement simple, mais qu'il fallait être attentif. Donc c'est les profs, c'est merveilleux l'enseignement, quand on tombe sur des gens agréables, attentifs, amoureux, bah ils vous sauvent, quoi.
Alors, tous les deux, depuis des décennies, vous êtes des voix majeures de la culture, chacun dans votre discipline, même si ces disciplines sont poreuses. Chez vous, on entend des voix, on imagine des personnages, on part en voyage de différentes manières. Vous, Georges Lavaudant, sur les plateaux de théâtre, Jean-Christophe Bailly, à la fois par son travail d'éditeur, de professeur à l'école du paysage de Blois, et aussi par ses textes. On reviendra sur le texte de Jean-Christophe Bailly, « Dépaysement ». Nous allons écouter la voix de Philippe Lacoulabarthe. Philippe Lacoulabarthe qui a été un ami proche de Jean-Christophe, avec qui vous avez travaillé, Jean-Christophe Bailly. Faut-il le rappeler, Philippe Lacoulabarthe était philosophe, poète, il a écrit des textes très importants, comme « La fiction du politique, la poésie comme expérience ». Avec lui, Jean-Christophe Bailly, vous avez dirigé une revue chez Christian Bourgois, Détroit, qui nous a fait connaître des textes majeurs, notamment du romantisme allemand. Vous avez publié un livre sur Philippe Lacoulabarthe. Nous allons l'entendre, il va parler de sa voix. C'est une archive INA du 14 janvier 1979, c'était au micro de Claude Royer-Journoux.
Sans fausse coquetterie, sans fausse modestie, c'est une voix, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là, que je ne supporte pas d'entendre de l'extérieur. Quelquefois même pour des raisons très profondes et qui tiennent au passage de la voix d'autrui dans votre propre voix, je n'aime pas non plus l'entendre de l'intérieur. Je reconnais simplement quelque chose, c'est que elle est hachée, distribuée, scandée, selon un certain rythme, et que, comme toute voix, j'imagine qu'elle est révélatrice.
De quoi?
D'une certaine frappe, d'une certaine empreinte, d'un certain type dont je suis persuadé que nous sommes marqués, et qui, outre nos gestes, nos attitudes, sans doute notre manière de penser, mais aussi bien notre manière de nous déplacer, de saisir des choses, de fumer une cigarette, etc., impose certains traits à notre voix. J'ai l'impression ou le soupçon que la voix est ce qui révèle le plus d'un sujet, si tant est qu'un sujet soit révélable.
Qu'est-ce qu'une voix pour vous, Georges Lavaudant, vous qui êtes metteur en scène de théâtre et d'opéra et écrivain aussi?
Ah non, moi je suis absolument très très sensible à ce que vient de dire Philippe Lacoulabarthe. Au théâtre, il y a les deux, bien évidemment, il y a la voix. On sait que c'est les voix qui ont fait certains grands acteurs de Gérard Philippe à Michel Simon, de Gérard Depardieu et à Marguerite Duras. Enfin, je sais pas, immédiatement, il y a un frappé, un son, une tonalité. Bon, au théâtre, ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il y a le corps, il y a le déplacement, il y a le physique. Mais tous les grands acteurs, c'est d'abord des voix, et justement des voix, comme le dit très bien Philippe Lacoulabarthe, qui révèlent un être. C'est-à-dire, c'est pas les voix, c'est pas la belle voix, ce qu'on reprochait parfois. Ils le font plus du tout, absolument plus du tout. Mais je veux dire, le côté belle voix de la comédie française, le bien dire. On voit que tous les acteurs qui nous ont impressionnés ces dernières années, c'est au contraire des voix malhabiles, faussées, pas calibrées, qu'on n'attend pas. Et c'est ça qui vous trouble, parce que ça, encore une fois, oui, ça révèle presque une vie. On peut imaginer des traits de vie à travers une voix sans connaître la biographie.
Avez-vous plusieurs voix à l'intérieur de vous, Jean-Christophe Bailly ?
Ah non, je ne crois pas du tout.
Voix intérieure, voix extérieure ?
Non, je pense. D'ailleurs, c'est même Philippe Lacoulabarthe a même écrit des choses extrêmement précises à ce sujet-là. Il pensait qu'on était une voix, qu'on était même une phrase. Une phrase continue, des premiers balbutiements, avant même qu'on parle, quand on apprend à parler jusqu'à à l'agonie, et qu'on ait une seule voix, une seule phrase. Et je pense que ce qu'il appelle le type, la façon dont on est typé, marqué comme par une empreinte, comme ça, c'est ce que l'on est. Et la voix le traduit, la démarche le traduit, etc. Après, c'est étrange, parce que c'est comme une donnée, comme un matériau. En même temps, on le travaille, mais on travaille avec ça. Et ça nous révèle, oui. Et en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est que on ne la connaît pas vraiment, sa voix, puisqu'on ne l'entend pas. Au moment où on parle, on ne l'entend pas comme l'entendent les autres. Et bon, il y a le problème de l'enregistrement qu'il évoquait, etc., mais c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est étrange, parce que c'est comme le fondamental de notre expérience. Ni de la naissance, ni de la mort, nous n'avons souvenir, par définition. Et de notre voix, nous n'avons pas connaissance. Mais sans doute, quel est ce qui nous relie le plus profondément à ce qui nous rend vivants de la naissance à la mort?
Alors, vous parlez de cette voix dont on ne peut rien connaître. Vous êtes le commissaire d'une exposition à l'abbaye d'Ardennes, à l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, où vous avez eu pour mission de restituer justement ce qui reste des gens qui ont disparu. Et cette exposition nous laisse des archives écrites, des graphèmes, des brouillons, des pages de notes, des carnets, et puis à la voix. Qu'est-ce qui est le plus proche, selon vous, qui avait fait cette plongée dans les archives du passé pour restituer ces voix et nous les rendre vivantes alors qu'elles sont mortes ? Qu'est-ce qui est le plus proche de la vie, selon vous, Jean-Christophe Bailly ?
Oh, je sais pas s'il y a quelque chose. Forcément, la voix avec son timbre, sa vibration, la façon dont elle habite le temps tout de suite, comme ça, avec cette chose extraordinaire que on se rend pas compte à quel point c'est extraordinaire de pouvoir avoir des voix enregistrées. On appuie sur un bouton, on entend Antonin Artaud, c'est étonnant, mais c'est le plus troublant. Mais les traces écrites, hein. C'est très troublant aussi, justement, puisqu'on parle d'Artaud, enfin je parle d'Artaud. Là, il y a toute la correspondance d'Artaud avec Jean Paulhan, qui est conservée là-bas. Donc, quand on sort les lettres comme ça, que je connaissais pour les avoir lues dans les œuvres complètes, c'est quelque chose d'assez étonnant, qui n'est pas du tout fétichiste, mais il y a... Parce que quand on a entre les mains la lettre écrite dans le café à Reims, où il était en train de tourner un film en 1931, avec l'entête du café, comme on faisait à l'époque, tous les cafés avaient un papier à entête avec une image, etc. Brusquement, on le voit, on est avec lui d'une certaine manière à la petite table du café des colonnes à Reims, etc. Donc il y a une possibilité extraordinaire pour l'archive, qu'elle soit sonore, mais aussi visible, écrite, disons, ou dessinée. Il y a une possibilité extraordinaire d'éveil. C'est comme une feuille de thé, elle est sèche, on la met dans l'eau, voilà. Et l'archive, elle infuse, quoi. Voilà. Et c'est, le travail de l'exposition, c'était de révéler ces traces, pas en tant qu'elles sont les traces de gens qui sont morts, en tant qu'elles sont d'une certaine manière toujours vivantes, d'autant plus que je me suis efforcé de réunir, disons, quelque chose qui relève du brouillon, quoi, en montrant que le brouillon, les notes, la notation, c'est finalement aussi conducteur, aussi important que le résultat, peut-être même davantage d'une certaine manière.
Il est 20h25, vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous venez, Jean-Christophe Bailly, d'évoquer la voix d'Antonin Artaud. Et ben, écoutez, c'est magique. À chaque fois qu'on entend Antonin Artaud, on se retrouve nous-mêmes dans un état de transe. Écoutons-le dans un extrait d'Aliénation et Magie Noire, archive INA, 1946.
Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscient et prémédité. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi.
Nous venons d'entendre la voix d'Antonin Artaud. Georges Lavaudant, vous connaissez très bien l'œuvre d'Antonin Artaud aussi. Vous aviez monté les Shensi, c'était en 2007. Comment l'œuvre d'Antonin Artaud a-t-elle orienté votre itinéraire théâtral?
Non, je pense qu'il y a deux ou trois théoriciens du théâtre, et en France, bien évidemment, il en fait éminemment partie, mais c'est une, et on l'entend là, on l'entend, c'est une matière dangereuse, si vous voulez. Moi, je suis pas sûr que j'ai su m'approcher de cette matière-là. Si on la prend vraiment au sérieux, c'est comme souvent chez les gens, faut faire très très attention, il le dit lui-même, c'est presque comme un chaman, vous pouvez vous y brûler, et faut surtout pas se laisser, enfin, je crois que c'est très difficile de se laisser entraîner. Soit vous êtes un autre Artaud, il y a eu hein, dans l'histoire de la littérature française et même récemment, des gens peut-être comme Gerasim Louka, des gens comme Stanislas Rodansky, qui se sont eux aussi complètement brûlés à une forme de folie, il faut aussi accepter de le dire. Mais quand vous êtes devant de tels foyers, il y a une peur. Moi j'avais, enfin si j'écoute, j'aurais plutôt peur de cette chose-là. Donc vous prenez les choses que vous êtes, vous, capable de comprendre, de maîtriser, mais il y a une part d'inconscient, il y a une puissance de provocation qui est très difficile d'affronter.
Jean-Christophe Bailly.
Mais la question, c'est qu'il y a avec Artaud, c'est que c'était presque insupportable, notamment après 68, pendant des années et des années, les gens qui se réclamaient d'eux. C'est pas quelqu'un dont on puisse se réclamer. C'est quelqu'un dont il faut sans arrêt, qu'il faut sans arrêt relire, je pense, qu'il faut sans arrêt travailler. Ça, c'est une chose. Mais une espèce d'exhibition comme ça, d'une légère hystérisation du corps. Et ça continue d'être très très fréquent au théâtre, hein, dans le théâtre, un théâtre comme ça, de soi-disant. Et à mon avis, ça n'a très peu à voir avec ce qu'il a désiré. Et ce qui est très très étonnant, par exemple, dans ce qu'on vient d'entendre, dans ce que vous venez de fournir comme document, c'est en fait, si on l'écoute, c'est un discours entièrement rationnel. C'est pas du tout irrationnel, c'est un discours rationnel. Et c'est cette rationalité du discours d'Artaud, qu'il s'agisse de ce qu'il dit sur les balinets, etc., c'est ça, c'est la logique de son raisonnement qui a été combattue et qu'on a voulu, d'une certaine manière, étouffer. Et quand on regarde la prodigieuse quantité et qualité, la richesse, disons, de tout ce qu'il a écrit au retour des années de plus grande souffrance à Rodez, etc., il y a là un matériau humain absolument bouleversant, mais dont il était l'unique interprète d'une certaine manière. Après, il y a eu un cercle d'amitié avec Roger Blin, avec Alain Cuny ou Maria Cazares, etc. Mais c'est un peu quand même comme une société secrète, et je crois pas qu'on puisse faire autre chose que d'être on est tributaire de ce qu'il a recherché, mais ça s'arrête là d'une certaine manière. On peut pas. Et quand je réfléchis moi à ce que je fais comme écrivain, c'est autre chose. C'est loin de ça. C'est loin de toute forme de supplication ou je ne sais plus. Je cherche le mot, je le trouve pas.
Après,
l'imprécation. Après, loin de l'imprécation.
Quand je dirais, si quelqu'un aujourd'hui, en entendant ça ou en lisant un jeune garçon, ça déclenche une énergie, c'est extraordinaire. Et même des choses qu'on a pu dire, bon, on les reverrait aujourd'hui, on trouverait peut-être ça kitsch, par exemple le Living Theatre ou Grotowski, mais peut-être s'il a déclenché des énergies comme ça, après elles sont détournées. Le mot de galvaudé est beaucoup trop fort, mais voilà, c'est un déclencheur. Après, chacun s'en empare à sa manière, même si on sent qu'il peut détourner, effectivement, Christophe l'a dit, là, une espèce de logique. On le taxe d'illogique, alors qu'il est d'une espèce de droiture de pensée extraordinaire.
Quand vous êtes rencontrés tous les deux, Georges Lavaudant, Jean-Christophe Bailly, vous aviez envie de construire un théâtre nouveau et un art nouveau. Et vous aviez envie de renverser la table par rapport au vieux code. Qu'est-ce qui vous a rapproché, Georges Lavaudant ?
Non, on avait envie de renverser la table, mais j'allais presque dire de manière douce aussi. Pas comme un acte de violence ou d'exhibitionnisme. Mais on avait envie de renverser la table. On avait surtout envie de pas s'inscrire dans les codes du théâtre. Jean-Christophe, lorsque je l'ai rencontré, enfin, on s'était rencontré un petit peu avant la première pièce. Hein, l'emblème, c'est les Céphéides, cour d'honneur d'Avignon. Bien sûr, ça a donné une exposition. Un auteur dramatique français jouait dans la cour d'honneur d'Avignon. C'est sa première pièce. Bon, voilà, on pourrait dire que c'est extravagant même. C'est un conte. Hein, on s'en amuse aujourd'hui. Mais on s'était quand même rencontré avant, lorsqu'avec d'autres camarades, ils avaient publié un texte qui s'appelait Le Manifeste Froid. Et c'est là qu'on a commencé de se rencontrer. C'était aussi lié au texte sur le romantisme allemand, à Lenz, à Büchner, etc., si vous voulez. Mais il y avait, oui, c'était moins l'idée frontale de s'opposer que de prendre un chemin de traverse. Et les Céphéides, ça a plutôt été ça. Ça a été de prendre un chemin buissonnier, de dire là, il y a la voie royale, peut-être, d'une certaine écriture théâtrale, avec une fiction, avec un début, une fin, des personnages, des enjeux politiques. Prenons un chemin, une savane, et on va voir où ça nous mènera. On n'était pas certain du tout où ça allait nous mener.
En tout cas, celles et ceux qui ont eu la chance de voir les Céphéides à la cour d'honneur, où il était beaucoup de questions des étoiles, de la beauté du ciel la nuit, et qui pouvaient à la fois écouter le texte de Jean-Christophe Bailly, voir les acteurs dans ce lieu majestueux et en même temps lever les yeux pour faire concordance avec ce qu'ils entendaient, ne l'oublieront jamais. Mais je crois qu'il y avait aussi chez vous un désir tous les deux de faire, puisqu'on parlait de la voix, de la singularité de la voix, un théâtre choral aussi.
Oui, en fait,
Jean-Christophe Bailly.
Il faut dire que...
Une invention d'une forme théâtrale nouvelle qui s'apparentait peut-être à un désir du romantisme allemand au XIXe siècle.
Oui, il faut dire que lorsque Joe, comme je l'appelle, hein, Joe, est venu me trouver, on se connaissait déjà, mais en me proposant de réfléchir à écrire pour lui, pour le théâtre, j'ai réagi dans un premier temps de façon négative, parce que j'allais peu au théâtre, je voyais ça loin de moi, et puis peu à peu, et ça je en serai toujours reconnaissant, il a fini par me convaincre. Mais je me souviens aussi que donc je travaillais à ces Céphéides, et puis est venu, pour une série de circonstances, ça serait trop long de raconter, pour une série de chances en fait, qui se sont emboîtées les unes dans les autres, ça a fini par se retrouver à la cour d'honneur. Mais je me souviens que ma réaction, elle avait été, je dis mais non, un jour à la cour d'honneur, et là c'était une réaction très... il faut donner à boire du gin à 3 pur sang, puis les faire courir dans la cour d'honneur, et puis voilà, ça sera, donc c'était très, hein, comme ça. Parce que je sais pas que j'avais peur, mais ça me semblait un peu disproportionné. Finalement, c'était très bien. Et en effet, c'est d'ailleurs la pièce, elle est plutôt une espèce d'oratorio, un profane, qu'une pièce avec une dramaturgie. Et quand j'ai essayé de faire des pièces avec dramaturgie, je suis pas doué pour ça. Donc, en effet, le théâtre que j'ai pu pratiquer, que ce soit avec Jo ou plus tard avec Gilbert Tutsai, ou même la fois où j'ai eu le plaisir de travailler pour Klaus Michael Gruber avec Gilles Ayot, à chaque fois, c'était pas du tout du drame. Disons, ou des constructions avec des scénarios, etc. Et donc, forcément, la façon dont la voix vient se poser dans l'espace, c'est quelque chose de très important. Et je me souviens, par exemple, que ce soit Gruber expliquant que on peut pas dire la même chose à 50 cm, quoi. L'endroit où on est sur la scène, il doit être calculé avec précision. Ou ce que j'ai découvert à travers la façon dont Joe dirige, et notamment dont il dirige les lumières, c'est-à-dire que c'est d'une précision incroyable. Et moi, ce que j'ai surtout découvert au théâtre et pourquoi j'ai eu plaisir à en faire, c'est parce que, disons, aussi, ça sort de la solitude. Parce qu'écrivain, sans en faire aucune espèce de romantisme de mauvais aloi, on écrit seul. Tandis que le théâtre, c'est quand même une fabrique, un garage. Il y en a un qui graisse le moteur. Il y en a un qui met une rustine. Enfin, il y a quand même un collectif autour d'une idée de forme qu'on connaît pas au départ. Et c'est ça qui est assez formidable.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Jean-Christophe Bailly, Yun Sul Na.
Uncertain weather comes, the cold wind blows, sudden hailstorm falls. The stars fade away, heavy clouds roll away, from spring through to winter. Oh, why can't I trust that tomorrow's gonna bring the sunshine? Bright yellow. Oh,
Georges Lavaudan, vous avez commencé à faire du théâtre très jeune et vous avez rejoint en 68 la troupe du théâtre Partisan. Puis ensuite, vous avez participé à l'aventure de la Maison de la Culture de Grenoble en 81. Et puis ensuite est née une double carrière. J'aime pas ce mot carrière, mais en tout cas un double itinéraire, puisque vous avez été directeur d'institutions théâtrales ô combien importante en France. En 86, vous avez succédé à Patrice Chéreau au Théâtre National Populaire à Villeurbanne. Puis ensuite, vous avez dirigé le Théâtre de l'Odéon, et ce, pendant très longtemps. Maintenant, vous continuez à faire du théâtre. Vous avez commencé en 1969. Et puis, je n'ose pas dire combien de mises en scène de théâtre vous avez faites, aussi bien des textes de répertoire que des textes d'auteurs contemporains vivants. Comment les bruits du monde sont-ils rentrés sur votre plateau et sur votre manière de considérer le théâtre ? Au théâtre, au début, c'était du théâtre, comme on disait autrefois, engagé. Était-il pour autant politique ? Est-ce que quand on monte une pièce de Shakespeare, on fait du théâtre qui nous permet de réfléchir à ce qui nous arrive en ce moment ?
Mais je pense que vraiment la première période, elle était, il y avait une volonté politique. Il y avait une volonté politique et poétique. Le modèle, un des modèles, ça pouvait être Jean-Luc Godard, si vous voulez. C'était plus ça, c'est-à-dire s'emparer.
Ça, c'est Grenoble.
Oui, Grenoble.
Les années Godard, Grenoble.
Oui, mais c'était, on s'emparait de fragments d'actualité, d'articles de journaux, de textes de Guy Debord, de textes de Jean-Marie Le Clézio. On les mélangeait à un poème de Rimbaud. On faisait des choses très physiques. On mettait une musique de John Coltrane. On agitait tout ça dans un shaker. On voulait faire, mais quand même, il y avait une volonté de s'emparer de la réalité. Pas une réalité, j'allais dire, documentaire, comme aujourd'hui, et ce qui est très très bien. Il y a aujourd'hui un formidable théâtre, j'allais presque dire documentaire, si vous voulez. Là, il y avait quand même toujours la volonté d'une dimension un peu plus poétique et même presque surréaliste, parfois. Puis ensuite, on a vu que, à force de faire ça, enfin, on en a fait 3, 4, 5, 7, où on parlait de nous, d'une certaine manière. On n'avait pas honte de ça. On racontait nos vies, on racontait nos amours, on racontait ce qu'on pensait de la société. Et puis, tout d'un coup, on a vu que ça nous menait dans une impasse, qu'il n'y avait pas de densité d'écriture. Et là, on a commencé à bifurquer, à aller voir du côté de Musset, du côté de Shakespeare, du côté de Brecht, du côté de Büchner, et se rendre compte que les classiques, contrairement à parfois ce qu'on croit, ne sont pas du tout sclérosés. C'est un sang neuf, c'est des potions d'énergie. Par contre, faut les lire de manière complètement, enfin j'allais pas dire contemporaine, mais il faut les lire comme si c'était un texte qui venait d'arriver sur votre bureau. Et c'est grâce à cette alternance, je pense, d'aventures, comme on a pu le faire par exemple avec Lumière, avec Jean-Christophe Bailly, avec Michel Deutsch, avec Jean-François Duroux, avec Gérard Mémone, avec enfin, des tas de gens, si vous voulez. Et puis le retour assez régulier à certains textes fondateurs, dont les Grecs d'ailleurs, hein, dont Eschyle, par exemple, Orestie, ou Ajax et Philoctète, c'est cet aller-retour permanent entre des choses approximatives, contemporaines, hésitantes, malhabiles, et puis le retour aux grandes sources.
Et vous, Jean-Christophe Bailly, comment imaginez la prise en charge de la réalité à l'intérieur de votre métier d'érudition, de savant ? Parce que je le disais tout à l'heure, vous enseignez à l'école du paysage de Blois, vous avez et vous continuez à nous transmettre les textes fondamentaux du romantisme allemand, vous avez une écriture à la fois poétique, à la fois très pragmatique. Où elle est la chair des choses ? Est-ce que ça doit être dans la prise en charge de ce réel qui nous arrive à grand bruit tout le temps et qui se déverse sur nous à toute vitesse ?
Juste un parenthèse, c'est fini, j'enseigne plus à Blois, mais j'ai eu plaisir à le faire assez tardivement. J'ai jamais voulu être professeur, ça s'est trouvé comme ça. Mais justement, je peux prendre cette traverse-là. Ce qui me plaisait le mieux, c'était dans ce travail-là, c'était pas tellement d'enseigner, c'était d'accompagner les étudiants sur leur site de diplôme. Parce qu'à la fin, c'est comme les études d'architecture, ils doivent prendre un véritable problème, je sais pas, une friche industrielle, une rivière qui déborde tout le temps, et puis essayer d'aller voir sur place. Et pour moi, c'était automatique dans le travail d'encadrement qu'on a à faire avec eux, c'était automatique d'aller avec eux sur le site, etc. Et où que j'aille et quoi que je fasse, j'ai toujours ce besoin de toucher, pas comme les gens qui viennent toucher un animal au salon de l'agriculture pendant une demi-seconde, mais un rapport brut, pas brutal, mais brut avec la réalité. Et moi, pour moi, tout part de là. Et les hypothèses romantiques et la recherche de pistes qui peut prendre une forme érudite, etc., ça part toujours d'un contact immédiat, d'un contact réel, d'un contact physique avec les choses. Et par exemple, après, c'est des souvenirs. Pourquoi j'ai choisi cette musique qu'on a entendue de Yoon Sun-na, bien sûr, c'est parce que justement, je trouve sa voix très belle, mais il y a toute une histoire. C'est une Coréenne qui a appris le chant classique, puis qui découvre le jazz à Paris. Et pour moi, ça parle véritablement d'aujourd'hui. Elle n'a pas besoin de chanter Le Temps des Cerises pour que déjà l'irruption de sa voix ait un sens par rapport au monde actuel, puisque ça dit très bien qu'on est beaucoup plus que sa provenance et que l'identité, c'est ce qu'on est en train de fabriquer et pas là d'où on vient. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand j'ai été à Séoul, une fois, je me suis promené dans les faubourgs. C'est toujours une ville, faut la voir et jusqu'à l'épuisement. Et en me promenant dans les faubourgs, j'avais été absolument sidéré par, en entendant le chant de la Reine de la Nuit, le grand air de la Reine de la Nuit, de la flûte enchantée de Mozart, qui annonçait l'heure. Dans la cour d'un lycée de jeunes filles. Et on voyait les jeunes filles comme ça, en uniforme un peu, qui couraient en entendant la Reine de la Nuit, etc. Et il y a une espèce de training comme ça à la musique classique dans ces pays-là, dont on voit d'ailleurs les résultats avec le nombre de gens qui jouent des instruments ou qui chantent ou qui dirigent. Et disons, il y a toujours pour moi, c'est pas des anecdotes, il y a toujours quelque chose qui fait directement partie de ce qu'on peut éprouver en voyageant ou en voyageant pas. Mais oui, il faut toucher.
On va toucher, en tout cas on va essayer de comprendre ce qui nous touche dans ce film qui reste dans nos mémoires et dont vous parlez au début de ce très beau texte que vous signez, Jean-Christophe Bailly, qui s'intitule « Le dépaysement, voyage au pluriel en France ». On écoute un extrait de « La règle du jeu » de Jean Renoir.
Enfin, mon cher Corneille, vous qui avez servi 10 ans chez le comte de Vaudois.
Pardon, 12 ans.
Et j'y serais encore si monsieur le comte n'avait pas été ruiné dans les produits alimentaires.
Bon, eh bien, est-ce que la comtesse...
Mon cher ami, la comtesse n'avait pas d'amant.
Oh, bah évidemment, elle avait 85 ans et on l'a traînée dans une petite voiture. Vous allez tout de même pas la comparer à madame, non?
Le comte de Vaudois n'était pas un métèque.
Qu'est-ce que ça veut dire encore ça?
Simplement que la mère de Lachenay avait un père qui s'appelait Rosenthal et qui arrivait tout droit de Francfort, c'est tout. Je suis sûr d'ailleurs que ton mari est de mon avis. N'est-ce pas, Schumacher?
Je ne sais pas de quoi tu parles, j'arrive.
Je peux pas savoir.
À propos juif, avant de venir ici, j'étais chez le baron d'Épinay. Je vous garantis que là, il n'y en a pas. Mais je vous garantis aussi qu'ils bouffaient comme des cochons. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai quittés.
On a pas longtemps, Lisette?
Oh ben, je ne sais pas, madame a encore besoin de moi.
Lachenay, tout métèque qu'il est, m'a fait appeler l'autre jour pour m'engueuler pour une salade de pommes de terre. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que pour que cette salade soit mangeable, il faut verser le vin blanc sur les pommes de terre lorsque celles-ci sont encore absolument bouillantes. Ce que Célestin n'avait pas fait parce qu'il n'aime pas se brûler les doigts. Eh bien, lui, le patron, il a reniflé ça tout de suite. Vous me direz ce que vous voudrez, mais ça, c'est un homme du monde.
Alors, on vient d'entendre avec enchantement cet extrait de La Règle du Jeu. Et vous, Georges Lavaudan, j'imagine que vous avez lu ce texte de Jean-Christophe qui s'intitule Le dépaysement et que vous avez eu peut-être la même impression que moi quand j'ai lu ce texte, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de quelqu'un. À l'époque, Jean-Christophe Bailly, vous étiez un jeune étudiant, vous étiez parti vivre à New York, et puis tout d'un coup, dans un appartement où vous habitiez, il y avait une télévision qui a commencé en version originale à défiler les images de La Règle du Jeu, et tout d'un coup, vous êtes dit, eh bien voilà, je ne savais pas que j'appartenais à la France et que j'étais tellement français. Ça veut dire quoi être français aujourd'hui pour vous, Georges Lavaudan? Est-ce que ça existe encore, ce sentiment d'appartenance à un pays, à un territoire?
Juste un mot, je prends bien soin de ne pas dire appartenir. Je
oui,
proviens
mais
de...
Oui, proviens
ah, c'est pas
de...
pas pareil.
Bah oui, bah, les mots sont minés. Alors je vais vous lire, Jean-Christophe Bailly, comme ça je ne vais pas faire, d'impair. Voilà ce que vous écrivez. Si un pays, ce pays, est tellement lui-même, au fond, nous ne le savons pas. Ce qui s'impose dès lors, c'est d'aller y voir. c'est de comprendre quelle peut être la texture de ce qui lui donne une existence, c'est-à-dire des propriétés, des singularités, et de sonder ce qui l'a formé, informé, déformé. C'est justement parce que certains croient que cela existe comme une entité fixe ou une essence et se permettent en conséquence de décerner des certificats ou d'exclure. Dans le temps d'écriture de ce livre sera apparu un ministère de l'identité nationale, aberration qui entraînerait, on allait le voir, tout un train de mesures strictement xénophobes, qu'il est nécessaire d'aller par les chemins et de vérifier sur place ce qu'il en est. Alors, ce qu'il en est de la France, pour vous, Georges Lavaudant?
Non, mais tout simplement, Jean-Christophe Bailly est là, on est amis de ça. Moi, je veux dire, c'est un livre fondamental. C'est un livre, et bien évidemment, encore plus fondamental à lire aujourd'hui. Et c'est un livre d'une simplicité, d'un plaisir, d'une gourmandise, parce que c'est ça, c'est pas du tout un livre théorique. Il est aussi, il l'est, comme toujours chez Jean-Christophe, il y a toujours un aspect de pensée, mais il y a comme des carottes, si vous voulez, comme on appelle ça, hein, quand on va sur la calotte glaciaire, on prend, il y a des prises comme ça du pays, où vous vous retrouvez dans un bus en Camargue, où vous vous retrouvez sur un parking près d'Annemasse, vous vous retrouvez dans les tranchées, enfin, elles sont plus là, de Verdun. Il y a une promenade dans cette France qui nous montre qu'effectivement, tout. Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui s'approche lentement, avec précision, avec douceur et profondeur, qui ne fout pas le coup de pied dans qui n'éparpille pas les choses et on n'y retrouve plus rien. Et c'est un livre, pour moi, vraiment formidable. Je trouve, il en a écrit de très, très beaux, mais celui-là, il est à lire immédiatement, si vous voulez, on le relit. Je l'ai relu. J'avais même envie. Je travaillais un moment avec de jeunes élèves. Je m'étais dit, tiens, ça serait une chose à pouvoir offrir à des jeunes élèves qui prennent chacun un chapitre et qu'ils arrivent à, bon, on peut pas tout lire, mais à nous le rencontrer. C'est un pur enchantement.
Alors Jean-Christophe Bailly, je ne vais pas vous demander ce que c'est que la France aujourd'hui, je vais vous demander de nous parler des oies, de votre amour des oies, de votre amour d'un texte de Selma Lagerlöf sur les oies. Oui. Et quand vous aimez, vous allez jusqu'au bout de votre désir.
Oui. Mais ça c'est lié à ma compagne, à ma femme Gilberte Say, avec qui j'ai fait pas mal de travaux de théâtre, et c'est lié à la préoccupation constante que j'ai depuis, pas toujours, mais depuis 30 ans maintenant, des animaux, envers les animaux. Et donc Gilberte Say, donc un jour me dit qu'elle a l'idée de faire une adaptation théâtrale du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Et je lui dis, mais t'es folle, au théâtre, etc. Puis de fil en aiguille, comme elle est encore plus têtue que moi, donc elle finit par construire une possibilité d'objet théâtral. Et comme on fonctionne un peu de la même manière, il n'est pas imaginable pour nous de faire quoi que ce soit conduisant à ce spectacle sans aller chez elle, les oies. Alors évidemment, c'est compliqué puisque c'est des oiseaux migrateurs. Mais au moins, on savait que l'été, elles sont là-bas. Donc là-bas, ça veut dire au-delà du cercle polaire, tout à fait au nord de la Suède. Et donc, on a fait ce voyage, d'ailleurs assez formidable, au-delà de Kiruna, là où il y a les mines de fer, des petits campements là, chez les lapons, en fait, qui restent tout à fait confortables. Ça n'avait rien d'une aventure. Mais après, le contact avec l'animal, finalement, on était un peu tard, c'était fin août, elles avaient déjà commencé de redescendre. Elles font des milliers de kilomètres, hein. Elles passent par ici d'ailleurs, et puis elles vont en Afrique. Enfin, ça dépend, parce que les oies bernaches qui passent l'hiver à Arcachon, elles vont l'été en Sibérie, enfin, il y a des tas de trucs. Quand on commence à s'intéresser, c'est assez prodigieux. Et c'est vrai que c'est étrange, parce que l'homme qui se prétend doté de toutes les qualités du monde, quand on est devant une oie, elle a en moyenne un tendeur de vol bien supérieur à la plupart des... Et donc, Et comment ça se passe, et leur vie sociale, etc., leur existence, tout bonnement la possibilité de voler, ce que ça représente, quoi. Et parce que les hommes ne volent pas, on s'assied dans un fauteuil, dans un truc qui bouge, qui est en l'air, mais ça n'a aucun rapport avec voler. Donc quel sens ça, voilà. Et donc moi j'ai toujours été passionné par l'idée de suivre les animaux selon les lignes de pensée qu'ils nous indiquent, même si eux sont pas des penseurs, ils nous font penser, voilà. Et c'était un très très beau voyage qu'on avait fait, et le spectacle était et ça c'était le travail de Gilberte, et comme souvent on travaille ensemble, j'avais contribué par un certain nombre de petites écritures qui venaient s'ajointer au récit principal qui était quand même celui de Selma Lagerlöf. Mais c'est pareil, pourquoi ce texte là parce qu'elle a écrit ce texte à l'époque des grands récits pour les enfants, le voyage des deux enfants à travers la France, tous ces livres étaient des livres nationalistes pour faire des bons petits patriotes prêts à taper plus fort sur le voisin. Le livre de Selma Lagerlöf, il est complètement différent. C'est un amour de l'amour d'une terre purement géographique, et comprendre la diversité et l'identité de quelque chose qui s'appelle la Suède, en la survolant comme ça sur le dos d'un animal, sans que jamais il y ait le moindre discours ou d'exclusion ou de prétendue valeur, etc. C'est pour ça que c'est un très beau livre.
Ben merci beaucoup à vous deux. Grâce à vous deux, on va pouvoir voler, en tout cas dans nos rêves cette nuit. Je rappelle, Jean-Christophe Bailly, que votre exposition, donc l'ineffacé, c'est à l'abbaye d'Ardennes, près de Caen, et ce jusqu'au 2 avril. Donc dépêchez-vous, parce que c'est vraiment un voyage là aussi, hein, au pays de la mémoire, de la littérature, de la poésie et de la philosophie. Quant à vous, Georges Lavaudan, vous venez de terminer à l'Odéon un montage de textes de Feydeau, et le prochain spectacle...
Il y aura donc une reprise de cet hôtel Feydeau à la rentrée, à partir du mois d'octobre. Il y a une formidable tournée de 5 mois dans toute la France, justement, ça nous permettra de revisiter la France. Et puis dans un an, je pense que je vais faire Faust de Gounod à l'Opéra de Genève, voilà.
Merci à vous deux, et vive l'amitié.
Merci.
Grâce à Georges Lavaudan, nous avons pu réentendre Stevie Wonder. Grâce à Jean-Christophe Bailly, j'ai pu découvrir You Sunna. Merci à Thierry Dupin, merci à Véronique Barnet qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission qui a été préparée par Élodie Royer et Marine Beccarelli, avec à la technique ce soir David Federman. Merci à toutes et à tous.